grand bien vous fasse, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 10h. Bonjour à tous, soyez les bienvenus en direct ou en podcast. À l'image de certaines minorités, les Roux subissent des discriminations à géométrie variable depuis l'Antiquité gréco-romaine. Réputés sournois, fourbes ou malodorants, les Roux ont été ostracisés à certaines époques. Mais comment expliquer les poncifs sur leur prétendue duplicité ou lubricité? Comment cette haine a-t-elle été vécue par les intéressés? Comment s'est opéré le lent retour en grâce de la rousseur? Comment se manifeste aujourd'hui la fierté rousse? Comment expliquer qu'en 2019, les Roux suscitent encore des réactions ambiguës entre attraction et répulsion? Rappelons que les Roux représentent environ 2% de la population mondiale, avec un record en Écosse, et c'est 13% de Roux. Pour nous aider à y voir plus clair ce matin, le grand historien Michel Pastoureau, la blogueuse et journaliste Alexia Barra, et la journaliste de cinéma Guillemette Audicino, et avec nous bien sûr les questions pertinentes de Marie-Laure Sunshine, de Femme Actuelle. Si vous êtes Roux, si vous avez eu des préjugés sur les Roux, n'hésitez pas à nous contacter au 01 45 24 7000 sur l'appli et le site de France Inter. Bonjour Christophe André.
Bonjour Ali.
Vous n'êtes pas roux, enfin, je crois.
Non, hein, non, je n'ai jamais été.
En tout cas, vous avez beaucoup de choses à nous dire ce matin sur le sujet.
Oui, et puis je vous parlerai notamment d'un homme étrange dans un déshabillé orange, hein, c'est proche du roux, et aussi de psychodiversité.
À tout à l'heure Christophe André, bienvenue dans Grand Bien vous fasse, la vie quotidienne, mode d'emploi.
France Inter. Grand Bien vous fasse. Ali Rébéi.
Être rousse, c'est être particulier, c'est être singulier, c'est être différent, c'est l'évidence. Et c'est vrai, vraiment. Mais les roux ont aussi un parfum, comment dirais-je, de sorcier. On en a quand même un peu peur. Et je crois que maman avait peur de cette violence qui m'habitait, de cette force. C'est vrai que j'aurais voulu être douce. J'aurais voulu être tendre, j'aurais voulu être comme mes sœurs, et je ne l'étais pas du tout.
La créatrice Sonia Riquiel en 1989, hein, sur le divan d'Henri Chapier. Et pour évoquer les roux au-delà des clichés, Michel Pastoureau, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'un des plus grands historiens français, spécialiste des couleurs, des images, des emblèmes et du bestiaire, directeur d'études émérites à l'école pratique des hautes études. Vous avez notamment publié un superbe ouvrage au Seuil, richement illustré, Rouge, histoire d'une couleur. Bonjour Alexia Barra.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, auteur du blog Alerte Rousse. Je vous cite, un blog pour les rousses créé par une rousse et qui contribue à lutter contre les préjugés.
C'est tout à fait ça.
Guillemette Audicino, bonjour.
Bonjour.
Journaliste et chef de rubrique Cinéma Télérama. Vous évoquerez quelques grandes comédiennes hollywoodiennes rousses. Vous évoquerez également votre rousseur enfantine et votre grand-fils roux, pas toujours fier de l'être, hein.
Absolument, pas toujours.
Être roux, c'est être particulier, comme vient de l'affirmer Sonia Riquiel, Alexia Barra?
Alors oui, c'est une... D'ailleurs, je trouve que c'est même quelque chose qui fait partie. Nous, avant d'être un individu, on nous reconnaît à travers cette couleur de cheveux, que ce soit en négatif comme en positif aujourd'hui. On est avant tout une couleur de cheveux avant d'être reconnu comme un individu.
Guillemette Audicino.
Oui, c'est vrai. Enfin, moi, je suis moins rousse que cette ravissante jeune femme, chers auditeurs. Bah, oui, parce que quand même, les roux sont beaux la plupart du temps. Hein. Voilà, ça c'est fait. Je l'ai placé dès le début. On est tranquille. C'est vrai que je suis moins rousse, mais il y a quelque chose, oui, de même les gens ont même tendance à vous toucher les cheveux.
C'est ça.
Automatiquement, quand ils brillent au soleil ou quoi, hop, il y a une espèce d'attirance comme ça. Alors, ça peut être cordial, ça peut être un peu agressif, ça dépend.
Allez, Alexia Lacour, vous êtes collaboratrice de l'émission, vous êtes rousse?
Oui, c'est vrai.
Bonjour. Vous vous sentez singulière?
Alors oui, bah c'est quelque chose qu'on m'a toujours dit, que j'étais un peu différente des autres, que j'étais pas comme les autres, comme si c'était une particularité physique, presque, enfin, quand j'étais petite, c'était presque un défaut. On me disait que c'était un défaut, comme un défaut physique. Et avec le temps, ça a été une particularité. Plutôt un avantage, en fait.
Christophe, on ne devient pas différent à force de se l'entendre dire?
Si, bien sûr, c'est le problème des causalités, tous ces clichés, là, les roux sont ceci, les roux sont cela, on ferait bien de se poser la question de savoir si c'est pas à force de leur casser les pieds que finalement ils finissent par être en retrait, par être agacés, etc. Donc ça, c'est un grand classique de la psychologie sociale, effectivement.
Michel Pastoureau, vous avez contribué à l'exposition Roux avec un point d'exclamation, sous-titré L'obsession de la rousseur, une exposition exposition qui montre différents aspects de la rousseur et qui se tient à Paris au Musée National Jean-Jacques Henner jusqu'au 13 mai prochain. Définir une couleur, c'est un exercice difficile. Définir l'oranger l'est plus encore, Michel Pastoureau.
Oui, définir la couleur, ça n'est pas facile. Suffit d'ouvrir un dictionnaire au mot couleur pour voir que les auteurs ont beaucoup de difficultés pour dire ce qu'est la couleur. Mais dire ce qu'est le rouge, le jaune ou l'oranger, c'est encore plus difficile. On peut nommer un certain nombre d'objets ou d'êtres vivants qui sont de ces couleurs-là, mais notre capacité à donner une définition ne va pas beaucoup plus loin. La couleur est rebelle. Et alors, pour chaque couleur, la palette des teintes est très très étendue. Pour le roux, bien sûr, il y a roux et roux. Hein, ça va du presque jaune au presque rouge, en passant par quelques bruns.
Le Robert nous dit que le roux est une couleur entre l'oranger et le rouge, synonyme roussâtre, auburn, rouille, brique, fauve.
Oui, on pourrait penser que roux, c'est à mi-chemin entre jaune et rouge, mais dans les pratiques et dans le vocabulaire, du moins pour les sociétés européennes, le roux est plus près du rouge que du jaune, et il introduit un petit peu de brun. C'est une couleur un petit peu plus foncée que orangée, en quelque sorte. Mais on peut ergoter, naturellement, ça représente pas la même chose pour tout le monde, bien sûr, être roux.
Alors j'aimerais qu'on fasse avec vous une brève histoire de l'oranger. Pendant longtemps, l'oranger n'a pas existé en tant que couleur. À quand remontent les plus anciennes traces d'oranger fabriquées par l'être humain ?
Alors, en tant que coloration dans la nature, on en trouve énormément. En tant que couleur, la couleur c'est culturel, fabriquée par l'être humain, il faut attendre des dates assez avancées pour la peinture. En gros, l'époque gréco-romaine, un petit peu dans la peinture égyptienne, mais pas beaucoup. Et en teinture, à peu près à la même époque. En tout cas, si ça existe avant, on n'en a pas trace. Et pour que l'oranger acquiert le statut de couleur à part entière, il faut attendre Newton et la découverte du spectre. On est en 1666. Newton propose un nouvel ordre des couleurs. Et là, l'oranger trouve sa place. Il fait partie des sept couleurs du spectre.
Alors, dans la Grèce et la Rome antique, l'oranger est plutôt destiné aux riches matrones, en tout cas dans la Rome antique. Les hommes libres qui s'habillaient en orange passaient pour efféminés et pouvaient faire l'objet de moqueries et de condamnations.
Oui, le jaune est abondant dans la Rome antique comme couleur d'étoffe et de vêtements, mais réservé aux femmes et s'habiller en jaune ou donc toutes les gammes qui se situent entre le jaune et le rouge, c'est féminin. Et donc on a des cas, notamment dans les querelles entre orateurs, rhéteurs, hommes politiques, où tel ou tel personnage est accusé par ses ennemis d'avoir porté du jaune ou de l'oranger, ce qui est une transgression et incompatible avec l'exercice d'une charge de magistrat.
Et à Rome, il existe une nuance d'oranger particulièrement dépréciée pour les hommes et pour les femmes, c'est le roux.
Voilà, qui se dit rufus en latin, et c'est une insulte, pas pour les femmes, mais pour les hommes. Traiter quelqu'un de rufus, c'est une injure, et ça va durer assez longtemps. On le rencontre encore assez abondamment au Moyen-Âge, dans le milieu des clercs, entre moines par exemple. On se traite de rufus, de rouquin, on dirait nous aujourd'hui. Ça s'atténue par la suite. C'est une injure un peu savante, évidemment, elle fait pas partie de la vie quotidienne.
Dans la mythologie gréco-romaine, la rousseur n'est pas bien vue, parce qu'on attribue au roux les défauts supposés du renard. Le renard faux, rusé et cruel.
Oui, les animaux à robe, pelage, plumage dans la gamme du roux sont en général des animaux négatifs. Le renard, c'est le roux par excellence, depuis la fable la plus reculée jusqu'au roman de renard et au-delà. C'est l'hypocrisie, c'est le mensonge, c'est la ruse, mais la ruse habile, la ruse intelligente. Il y a un autre roux qui est un gros réprouvé, ça nous étonne un peu, c'est l'écureuil. On n'aime pas beaucoup l'écureuil.
C'est mignon l'écureuil.
Oui, dans les sociétés anciennes et médiévales, on lui reproche beaucoup de choses.
Qu'est-ce qu'on lui reproche ?
D'abord d'être roux, en tout cas pour ce qui est de l'Europe occidentale, les écureuils sont roux. Le plus souvent, on lui reproche d'être paresseux, il dort une partie de l'année, d'être lubrique, il passe son temps à se cajoler avec ses congénères, d'être avaricieux, il stocke plus de noisettes qu'il n'a besoin, et d'être stupide puisqu'il n'arrive pas à retrouver les noisettes qu'il a cachées. Ça fait beaucoup pour le symbole des caisses d'épargne.
Guillemette Audicino.
Mais et au Moyen-Âge, il n'y a pas aussi ce moment très important lié à la lubricité des roux, où on force les prostituées à se teindre en roux pour qu'on puisse les différencier des autres femmes ?
Non, c'est plus récent que le Moyen-Âge. Ah. En effet, pour les autorités municipales notamment, il y a toujours le souci de distinguer les prostituées des honnêtes femmes, entre guillemets, par une pièce de vêtement de telle ou telle couleur, mais il n'y a pas un système unique. Ça varie d'une ville à l'autre, et même pour une même ville, d'une époque à l'autre. Et c'est plutôt au XVIIIe et au XIXe siècle que la chevelure, à la place du chaperon ou du couvre-chef, est concernée, et qu'on demande, dans certaines villes, pas partout, aux prostituées de se teindre en rouge ou en roux.
On reviendra sur la rousseur au Moyen-Âge, mais Michel Pastoureau, j'ai été surpris d'apprendre que les roux sont également mal vus dans le monde et la mythologie germano-scandinave.
Oui, alors que là, ils sont plus nombreux qu'ailleurs, statistiquement. Écosse, vous l'avez dit, Irlande, Norvège, Suède, proportionnellement, on est autour de 10, 12, parfois 15% de roux, mais ils font quand même écart avec les autres. Et le roux, c'est celui qui n'est pas comme les autres, donc il est taboué à un titre ou à un autre, n'est pas le seul, bien sûr. On doit être comme les autres dans une société donnée.
Et d'ailleurs, le dieu le plus violent de la mythologie scandinave, le plus redouté, c'est Thor, et il est roux.
Oui, c'est le dieu de la guerre, mais surtout de la violence, de la force. Il agit avec beaucoup de colère, il est roux, et il y a un autre dieu roux qui est Loki, dont un des enfants, le loup Fenrir, sera la cause du crépuscule des dieux et de l'écroulement du monde germano-scandinave mythique.
Et dans la Bible, certains personnages sont roux? D'abord peut-être les disciples de Satan dans l'Apocalypse?
Oui, alors il y a un certain nombre de personnages négatifs qui sont roux, mais il y a aussi du positif. Comme dans tout système symbolique, bien sûr, il faut une soupape, il faut des exceptions, sinon le système ne fonctionne pas très bien. Le premier roux mentionné, c'est Ésaü, le frère de Jacob, qui est, dit la Bible, à la naissance, roux et velu comme un ours. Ça fait deux disgrâces physiques pour les systèmes de valeurs physiques. Et puis, il se comporte assez mal. C'est un grand chasseur, et un jour où il rentre affamé de la chasse, lui qui est l'aîné, il échange son droit d'aînesse contre un plat de lentilles, et c'est son frère cadet donc qui va devenir l'aîné et avoir la bénédiction de leur père. Mais il y a aussi un roux pris en bonne part.
David.
Voilà, il est ambigu quand même, David, comme personnage biblique, mais plutôt pris en bonne part. Et lui aussi, il passe roux, pour roux, du moins dans les versions anciennes de l'Ancien Testament, araméenne, grecque, latine. Et puis dans les traductions en langue vernaculaire moderne, j'ai observé qu'on préfère le dire blond, comme si c'était pas bien de dire que David était roux. C'est un document d'histoire en soi.
En tout cas, dans le livre de Samuel, David est décrit comme roux, au regard clair et à la belle prestance. Alexia Barra, vous êtes rousse et vous avez une belle prestance. Et vous animez donc le blog Alerte Rousse. Vous avez constaté tout de même que beaucoup de gens expriment sans retenue leur répulsion pour les roux. Avec les roux, on peut se lâcher.
Oui, j'ai l'impression qu'en fait, il y a une forme de discrimination qui est banalisée. Comme si c'était rentré dans les mœurs et que c'était tout à fait acceptable d'exprimer justement sa répulsion envers les roux. Je peux vous donner un exemple, je pense que vous connaissez peut-être, si vous avez des amis qui ont... souvent les bruns ont la barbe rousse ou peuvent avoir des reflets dans la barbe. Et si un de leurs amis va leur faire la remarque qu'il ressemble à un roux, tout de suite c'est... une réaction très virulente à cet égard. Ça, c'est comme si c'était une insulte, en fait.
C'est exactement ce qui a provoqué... Enfin, je ne sais pas si ses camarades se sont moqués de lui ou n'ont fait que le remarquer, mais mon fils a effectivement les cheveux bruns. J'ai beau lui dire que c'est extrêmement chic et que certains acteurs hollywoodiens très en vogue ont les cheveux bruns et le poil roux, disons. Effectivement, à partir du moment où il s'est rendu compte qu'il avait une barbe rousse... Ça a provoqué, mais alors que ça lui va très bien la barbe, il a voulu rester imberbe très longtemps.
Qu'est-ce que ça a provoqué?
Ah ben je sais pas, une impossibilité. C'est-à-dire il m'en a même voulu. Ouais. Il m'en a voulu d'avoir transmis ce gène fatidique. Donc et il m'en a voulu et c'est au fur et à mesure et peut-être grâce tant mieux à la mode et à une vraie mode là. En revanche qui est en train de s'implanter sur la beauté des roux, des mannequins roux, des actrices rousses et tout ça. Que ça y est, maintenant, la pilule est passée. Il n'en est pas à en être fier, je pense. Hein, mais ça va, c'est passé.
Alexia Lacour, je rappelle que vous êtes rousse. On s'est beaucoup moqué de vous quand vous étiez petite. Et à quel moment de votre scolarité? Alors, plutôt à l'école primaire, au collège?
C'était, je dirais, fin primaire, collège et un peu début du lycée. C'était vraiment le collège où c'était le plus dur, où c'était le plus violent. Et c'était, oui, c'était... En fait, c'était vraiment le mot roux qui était utilisé comme si c'était une insulte, comme vous disiez. C'était, voilà, ah mais t'es rousse, ah mais t'as les cheveux roux, mais bon, en fait... ou alors... t'es jolie, c'est dommage, t'es rousse.
Ah oui.
Des trucs comme ça, oui.
On a osé vous dire ça.
Ouais. C'est dommage que tu sois rousse.
Alexia Baran vous l'a dit aussi.
Alors,
ça
non, mais aujourd'hui, c'est drôle parce que déjà, il faut préciser qu'il ne se passe pas une journée sans qu'on me parle de mes cheveux. Ça, c'est un fait.
Ouais, pareil.
Et c'est vrai que parfois, on a l'impression de me faire un compliment. Alors, moi, on va me dire, t'es jolie pour une rousse. Comme si c'est impossible d'être beau ou belle quand on porte cette couleur de cheveux.
Mais il y a une manière de contourner le problème. Moi, je me suis pas trop fait embêter quand j'étais plus jeune, mais parce qu'en fait, quand on me disait t'es rouge, je disais non, je suis au burn, je suis blonde vénitienne.
J'en ai voulu,
je
là,
suis. Ah ben oui, mais ne serait-ce que d'instaurer une précision ou une nuance dans tout ça. En plus, ça les désarme, c'est-à-dire ah bon, c'est quoi au burn? Et alors là, du coup, on explique ce que c'est au burn et on passe à autre chose en fait. On est en train de leur expliquer des nuances capillaires.
Marie-Laure Sunshine, de Femme Actuelle.
Oui, vous disiez sur le sentiment de rejet que suscite la couleur de vos cheveux, c'est quand même hallucinant. Il faut quand même noter qu'en 2015, alors c'est récent, oui, et en même temps c'est là, il y a eu une campagne à la télévision sur le harcèlement scolaire et qui mettait en scène un petit garçon, Baptiste, un roux qui se faisait moquer, insulter, taper par les élèves de sa classe. Et c'était le sens, c'était vraiment la personne qui symbolisait le harcèlement scolaire en global, et il a été volontairement choisi comme étant un petit enfant roux. Donc on a vu quand même qu'il y a une prise de conscience. Il s'est passé quelque chose.
Oui, alors après, c'est quelque chose qui existe encore aujourd'hui et je le vois sur mon blog parce que j'ai une rubrique témoignages, donc je reçois encore aujourd'hui des témoignages qui sont pour certains vraiment choquants. Certains me racontent, alors ça va des insultes, des moqueries à la violence physique parfois. Et je pense qu'en plus de cela, il y a cette souffrance est renforcée par le fait qu'on est la minorité des minorités. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de sentiment d'appartenance à une communauté, il n'y a pas de sentiment de fraternité non plus. Justement, bah souvent, parfois, on est parfois seul aussi dans sa famille à être roux, donc il n'y a pas de sentiment d'identification. Donc on vit seul cette souffrance. Et d'ailleurs, je ne sais pas pour toi, Alexia, mais je sais qu'au collège-lycée, si jamais il y avait une autre rousse ou un autre roux, il n'y avait pas ce sentiment de solidarité, justement.
Alexia Lacour.
Ouais, c'est vrai, mais moi, du coup, j'étais la seule rousse de mon école, enfin de mes classes, etc. Et du coup, c'était vraiment t'es différente, t'es à part. Mais c'est vrai qu'après, j'ai rencontré d'autres rousses à la fac un peu plus tard. Mais comme vous disiez, il n'y a pas eu ce sentiment de solidarité, non. On est un groupe, on est quand
on
même.
On va pas tendre le bâton pour se faire battre, en fait. C'est un peu ce sentiment-là.
Et Alexa Lacour m'avait dit hors antenne que vous avez eu envie de vous teindre les cheveux à un moment de votre scolarité.
Ouais, quand j'étais au collège, je me disais que bon, c'était pas grave, j'avais qu'à régler le problème en me teignant les cheveux. Mes parents n'ont pas voulu parce que j'étais jeune, j'avais 12-13 ans, et ils m'ont dit, mais non, mais il n'y a aucune raison que tu te teignes les cheveux.
Et vous, Alexia?
Alors moi, j'ai teint mes cheveux en blond pendant près de 10 ans, je crois. Mais je ne le vivais pas mieux pour autant, parce que de toute façon, je pense qu'une fois que le roux est là, il est là. Et donc j'avais les racines qui étaient visibles, les taches de rousseur, la peau claire, et donc j'avais un problème un peu identitaire, quoi.
Votre regard, Michel Pastoureau?
Mon regard, c'est que dans ce studio, il y a quatre jolies femmes et aucune n'est rousse. Pour moi, on est sur les marges de la rousseur. Archétypalement, roux, c'est quand même carotte, potiron. On est près de l'oranger. Pullover que je vois en face de moi, par exemple.
De Christophe André. Vous êtes d'accord avec ça, Alexia Baran? Sur le fait que le nuancier de la rousseur, en tout cas pour Michel Pastoureau, c'est plutôt le rouge.
Alors, c'est sûr qu'il y a des nuances infinies dans le roux. Ça va du blond vénitien, justement, jusqu'à l'auburn. Et c'est vrai qu'il y a des couleurs qui sont beaucoup plus flamboyantes et qui sont beaucoup plus visibles que d'autres. Et donc, je pense que ça joue dans le fait de se faire embêter par la suite ou pas.
Allez, si vous êtes roux, si vos enfants ou petits-enfants sont roux, n'hésitez pas à témoigner au 01 45 24 7000 sur l'appli France Inter et sur la page Facebook de Grand Bien Vous Fasse. Alexia Lacour et Antoine Vandeville m'ont aidé à préparer cette émission avec l'aide de Nicolas Bove, et c'est réalisé par Claire Destacan.
Du mois de septembre au mois d'août, faudrait des bottes de caoutchouc pour patauger dans la gadoue, la gadoue, la gadoue, la gadoue.
les gouttes d'eau me dégoulinent dans le dos. Nous pataugeons dans la gadoue, la gadoue, la gadoue, la gadoue. Ouh, la gadoue, la gadoue. Vivons un peu sous ciel gris bleu d'amour et d'eau de pluie. Mettons en marche les essuie-glaces et rentrons à Paris. Ça nous changera pas d'ici. Nous garderons nos parapluies. Nous retrouverons la gadou, la gadou, la gadou, la gadou. Ouh, la gadou, la gadou. Abominable, heureusement tu as ton imperméable, mais ça n'empêche pas la gadoue, la gadoue, la gadoue, la gadoue. Ouh, la gadoue, la gadoue. Il fallait venir jusqu'ici pour jouer les amoureux transis et patauger dans la gadoue, la gadoue, la gadoue. Ciel gris bleu d'amour et d'eau de pluie. Puis mettons en marche les essuie-glaces et rentrons à Paris. L'année prochaine nous irons dans un pays où il fait bon et nous oublierons la gadoue, la gadoue, la gadoue.
La Gadou, Petula Clark, et ça rappelle plein de souvenirs à Marie-Laure Sunshine. Hein.
Mais pourquoi moi? C'est toujours moi qui dois commenter les disques.
Ça tombe toujours sur vous, je sais
oui,
pas pourquoi.
Oui, mais oui, je sais pas, je suis pas rousse, c'est peut-être pour ça. Là.
Qu'est-ce que tu aimes comme fiancée? Les blondes, les brunes?
Les rousses.
Grand bien vous fasse sur France Inter.
10h29 et on s'intéresse ce matin aux roues au-delà des clichés avec l'historien Michel Pastoureau, la blogueuse Alexia Barra et la journaliste cinéma Guillemette Audicino. Écoutons un coiffeur qui évoque la rousseur en 1985 sur France Inter.
Le roux évoque une couleur du milieu. Dans les teintes, on commence d'abord par le blond, on va au noir en passant par le roux. Le roux, c'est la couleur centrale de la colorimétrie en coiffure.
Gérard Pioget.
Il y a quand même plusieurs sortes de roux. Vous avez des roux qui sont vraiment très flamboyants. Ou des roues qui ont tendance à aller un petit peu sur le blond. Et leur peau, en général aussi, ont des taches de rousseur.
Est-ce qu'en tant que coiffeur, c'est une couleur que vous appréciez particulièrement pour je veux dire, le travail qui est possible de faire dessus?
Oui, c'est formidable. D'abord, les roues, en général, ont un cheveu très souple, très agréable à travailler. Et puis, on peut faire pas mal de choses, des flashs, des coups de soleil, des mèches. Il y a beaucoup de choses à faire sur les roues. Tout à fait, un cheveu qui supporte très bien le flou, des coiffures très... très allégé, je trouve ça très joli.
Ça me donne envie d'être roux. Est-ce que vous faites le bonheur des coiffeurs, Alexia Barra?
Alors, les coiffeurs sont nos premiers admirateurs. Oui, oui.
Pourquoi?
Bah, parce que je pense que c'est pour la rareté que ça représente, tout simplement.
Guillemette Audicino.
Et ils demandent toujours, mais c'est votre couleur naturelle? Ça vous fait ça, vous aussi? Ouais, tout pareil, le temps, ouais. Tout le temps.
Alexia Lacour, vous collaborez à l'émission, je rappelle que vous êtes rousse.
Ouais, c'est vrai que à chaque fois on me demande, on me dit mais qu'est-ce que t'as fait comme couleur pour avoir cette teinte? Je dis non, c'est ma couleur naturelle. Ah mais c'est maintenant du coup, c'est très beau.
Mais c'est devenu une qualité.
Bonjour Alix, bienvenue.
Bonjour.
Alors bon, vous êtes une rousse heureuse, c'est ça?
Ouais, exactement. Et je suis ravie que vous fassiez une émission sur les roues parce que. Dans ma famille, on est tous roux, alors ça va vous faire rire, mais du côté de ma mère, de mon père, il y a mes oncles, mes tantes, mes cousins, j'ai un frère qui est roux, et j'ai eu un fils roux. Alors j'ai deux garçons, un roux et un blond, donc c'est la pub d'une célèbre marque de cartouches d'imprimante qui existe dans la réalité. Et en fait, nous, on vit tous très bien, alors je pense que c'est en fait ce sentiment de solidarité, Mais pour revenir à ce que disaient vos invités, moi, à l'école, j'avais une chance, c'est que dès qu'il y avait une rousse, on avait l'impression tout le monde nous appelait sœurs. Mm-hmm. Tout le monde pensait qu'on était des sœurs et il y avait une espèce de, au contraire, solidarité. On se retrouvait, on jouait là-dessus, ça nous amusait. Et j'ai toujours eu ce sentiment un peu différent, mais c'est plus une force pour moi. Et j'étais donc j'ai un prénom qui claque, j'ai une couleur qui claque, donc du coup bah ça m'a toujours un peu voilà tiré vers le haut et j'étais toujours voilà très fière de ma couleur de cheveux.
Et vous n'avez jamais subi de discrimination, Alix? Vous n'avez jamais subi de discrimination?
Pardon, j'ai pas entendu.
Vous n'avez jamais subi de discrimination à l'école, au collège?
Non, pas plus que. J'avais des taches de rousseur, donc oh, c'est comme des crottes de pigeon. Je dis oui, mais toi, t'as les yeux marrons comme les yeux cochons. Vous voyez, il faut aussi avoir, remettre les choses dans leur contexte. Par exemple, t'as les cheveux roux, bah oui, comme ça on me repère facilement dans la cour, bah tant mieux. Enfin, quelque part, c'était plus. Après, il faut avoir la personnalité, je pense, qui assume la couleur, mais quand on l'assume, c'est vrai que c'est une chance pas possible. On sort du lot facilement et on le vit bien. Moi, j'ai toujours très bien vécu. Alors peut-être parce que j'avais toute cette famille derrière moi aussi. Oui. Ça aide.
Guillemette Lodicino, je rappelle que vous étiez rousse quand vous étiez petite.
Justement, Alix, vous avez un fils blond dans toute une famille rousse, mais c'est lui qui va se sentir tout bête alors, non?
Eh bien, écoutez, je vais vous faire rire, mais on a été au rassemblement des roux à Bréda.
Mm-hmm. En Bretagne.
Au
Pays-Bas, pardon.
Et ça, c'était très sympa. Et mon fils, qui était blond, était triste de ne pas avoir le droit de porter le t-shirt des roux, comme tous les roux de ce rassemblement. Et du coup, on a un peu triché, un peu blond, vénitien, et du coup, il a pris un t-shirt. Mais c'est vrai que c'était ce sentiment d'appartenance à cette communauté de roux. Moi, j'ai vraiment ce sentiment-là.
Merci beaucoup, Alix, pour votre témoignage. Merci beaucoup. Michel Pastoureau, je rappelle que vous avez contribué à l'exposition Roux avec un point d'exclamation, l'obsession de la rousseur au musée Jean-Jacques Henner à Paris. C'est jusqu'au 13 mai. Alors, au Moyen-Âge, les roux sont mal vus. Et à partir du 12e siècle, on attribue pas mal de vices aux roux. C'est un peu la faute à Judas.
Oui, c'est l'homme roux par excellence. Les évangiles ne parlent pas du tout de l'aspect physique de Judas, mais par la suite, les évangiles apocryphes et puis les traditions qui s'y rattachent lui donnent tout un cortège d'attributs physiques et moraux. C'est le traître Judas, celui qui a trahi le Christ pour 30 deniers. Donc on lui donne des attributs récurrents, une laideur physique, une petite taille, un masque bestial, des cheveux roux, une robe jaune. Plus on avance dans le temps, plus dans les images, on ne peut pas ne pas reconnaître Judas, il est différent des autres, même dans les moments où les apôtres sont rassemblés, il est à une place à l'écart, dans une position particulière, et donc il incarne un grand nombre de vices, et c'est la rousseur plus la robe jaune qui traduisent dans l'image ce caractère très très négatif. Judas d'ailleurs devient un nom commun, un Judas c'est un traître, c'est un menteur, c'est un hypocrite, voilà.
Et toujours au Moyen-Âge, les traîtres, les rebelles, tous ceux qui commettent des actions malhonnêtes sont figurés en roux.
Oui, peut-être pas tous, mais souvent, oui, c'est un système, bien sûr. Dans une chanson de geste, il y a trois frères dont l'un d'eux est un méchant, ce sera naturellement le roux. Il y a un brun, un blond et un roux, le roux c'est le méchant. Dans la Bible, un certain nombre de femmes sont négatives, Dalila par exemple, dans les images médiévales, on lui donne des cheveux roux, et ainsi de suite. C'est un système qui dure longtemps, jusqu'à l'époque romantique, où là, les choses commencent à changer.
Alors, toujours dans l'iconographie médiévale, les exclus, les réprouvés sont souvent dépeints en roux. Je pense évidemment aux hérétiques, aux juifs, aux lépreux, aux infirmes, aux mendiants.
Oui, il y a cette espèce d'attribut récurrent en général qui est associé à d'autres attributs, par exemple être gaucher. Judas est gaucher, il instrumente de la main gauche, il tient la bourse aux 30 deniers de la main gauche. Ce qu'on ne voit pas dans les images, ce sont les taches de rousseur, mais qui, dans la société véritable, vont de pair avec le rejet des cheveux roux. On se méfie énormément des peaux qui ne sont pas nettes, qui ne sont pas lisses, parce qu'on a très très peur des maladies de peau qui sont signes d'épidémie. Et là, on ne sait pas lutter contre ce type de maladie. Donc tout ce qui est pustule, bubon, bouton, tache, c'est très très inquiétant et c'est un moyen donc d'être exclu ou réprouvé, comme le sont les lépreux par exemple.
Et à la fin du Moyen-Âge, croiser un homme roux, c'était un mauvais présage.
Oui, surtout si ça se passe le matin. La journée va mal se passer. Mais on dit la même chose pour rencontrer un chat noir ou un chat tigré. On le disait encore en Bretagne quand moi j'étais enfant. Bon, dans toute société, il y a des phénomènes de ce genre. S'ils n'existaient pas d'ailleurs, c'est que ça ne serait pas une vraie société. Donc, il faut des exclus, des réprouvés. Le problème, c'est que ce sont toujours les mêmes. C'est ça qui est embêtant.
Est-ce qu'il y a eu beaucoup de roux, de rousses brûlées sous l'Inquisition?
Non, 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 non. Ça peut être un caractère aggravant. Les sorcières passent pour avoir les cheveux roux, avoir les dents vertes, portent des robes vertes, chevauchent des animaux épouvantables pour se rendre au sabbat. Mais ça n'est pas une cause pour être conduit au bûcher. Ce qui peut être une cause d'aller au bûcher, à Genève sous Calvin, par exemple, c'est de porter des habits rouges. Ça, oui, c'est des habits papistes, on va droit au bûcher. Mais avoir les cheveux roux, non, ça ne va pas jusque-là.
Alexia Barra.
Oui, bah, il me semblait, moi, avoir toujours lu que sous l'Inquisition, justement, il y avait eu plus de 20 000 personnes.
Non, non, c'est une légende. Bien sûr, les traditions en rajoutent une couche, mais ça ne se passe pas comme ça. L'Inquisition, il y a des procès, il y a des enquêtes, bien sûr, non.
Bonjour Aurélia, vous appelez de Belgique, bienvenue.
Oui, bonjour.
Alors, nous écoutons votre témoignage, Aurélia.
Oui, quand j'ai vu le sujet passer hier sur les réseaux sociaux, je me suis dit que j'avais envie d'intervenir parce que moi, ma fille a des cheveux blonds vénitiens. Mmh. Donc c'est blond avec beaucoup de reflets roux. Quand elle est née, elle n'avait pas beaucoup de cheveux, mais les cheveux qu'elle avait étaient roux et à des taches de rousseur. Et elle l'a très mal vécu à l'adolescence, pendant l'enfance et l'adolescence. Et à l'adolescence, elle a commencé à acheter des produits en grande surface pour se blondir les cheveux. Pour avoir un blond assez, je peux dire ça parce que moi-même je suis blonde, donc c'était un blond assez banal pour le coup, alors que moi je trouvais que son blond vénitien qui rendait tous les coiffeurs un peu hystériques, tellement ils étaient en admiration devant son très joli roux, du coup elle a voulu le transformer, le cacher, pour qu'il soit un blond qui se fonde dans le paysage en fait. Et moi je trouvais ça dommage en tant que maman. Mmh. Et maintenant elle a 20 ans et elle assume ses très beaux cheveux et ses reflets roux. Mais enfant et adolescente, elle me rapportait subir des moqueries à l'école en fait.
Mmh. Alexia Barra, sur votre blog, il y a beaucoup de jeunes qui viennent témoigner sur...
Oui, énormément, et c'est vrai que c'est un peu l'histoire du vilain petit canard qui devient un beau cygne. C'est particulier à vivre parce qu'en fait on passe toute une partie de notre vie à se faire insulter, à se faire moquer, et toute une autre à être admiré, justement, alors que nous, on n'a pas changé, on a toujours la même couleur de cheveux, c'est juste le regard autour qui change.
Merci beaucoup Aurélia de nous avoir appelé. Pourquoi est-ce que vous avez créé votre blog Alerte Rousse en 2014? Je crois que vous êtes partie en guérilla contre de rencontre Adopte un mec.
En fait, le site de rencontre adopteunmec.com avait lancé une campagne d'affichage nationale qui mettait en avant un roux qui était volontairement enlaidi. Donc il avait des cheveux gras, un sourire niais, et c'était accompagné de l'accroche cette semaine série spéciale carotte pour voir la vie en orange. Donc moi, quand j'ai vu ces affiches-là, je me suis dit deux choses. La première, c'était que j'ai pensé à tous ces ados qui sont au collège, lycée, qui se font déjà harceler toute la journée, qui vont prendre le bus le soir et qui tombent sur cette affiche-là, ça n'aide pas. Et j'ai pensé aussi au fait que Adopte un mec n'aurait jamais osé mettre en place le même type d'affiche avec une autre minorité. Ça ne serait jamais passé, il n'aurait jamais osé le faire. Du coup, j'ai répliqué en reproduisant les mêmes affiches et les mêmes jeux de mots débiles, hein, disons-le, en prenant d'autres minorités pour prouver mon point. Donc, j'avais mis un asiatique en mettant l'accroche cette semaine série spéciale NEM pour voir la vie en jaune et un noir en mettant cette semaine série spéciale banane pour ne plus voir la vie en noir. Ouais. Et effectivement, les gens étaient profondément choqués quand ils ont vu ces affiches alors que le roux c'est tout à fait
admissible. Voilà. Est-ce que le regard sur les roux diffère selon que l'on soit un homme ou une femme, Michel Pastoureau?
Oui, il est très différent. Je pense que aujourd'hui, c'est plus dur d'être homme roux que femme rousse. Hein. Ça fait peut-être un écart encore plus grand, même s'il y a des roux célèbres, Van Gogh par exemple.
Pourquoi c'est plus dur pour un homme?
On demande à un homme d'être plus dans la norme. Aujourd'hui, il n'y a qu'à voir le problème vestimentaire. Un écart vestimentaire chez un homme et suscite désordre ou colère des autres beaucoup plus que chez une femme. Et ça n'est pas récent. Hein. Ça vient de très très loin, de la réforme protestante, probablement.
Guy Méthodicino.
Oui, c'est vrai. Et puis la rousseur, on en parlait bien avant, qui était liée un peu à la prostitution ou en tout cas à des femmes de petite vie. Alors maintenant, la rousseur est plutôt liée à quelque chose de glamour dans le cinéma, même dans, enfin, chez les mannequins et tout. Donc chez les femmes, le roux, c'est glamour. Chez les mecs, ça met du temps encore à venir vraiment à la mode.
Allez, il est temps de retrouver les choses vues de notre psychiatre Christophe André qui porte ce matin une chemise rouge, non même pas rouge, orange éclatante.
Ah ouais. France Inter.
T'es quoi, t'es médecin, psychiatre?
Grand bien vous fasse.
Psychothérapeute. Qu'est-ce qui me prouve que t'es psychothérapeute?
Choses vues.
Christophe André, que vous inspire notre sujet du jour?
Honnêtement, sans vouloir vexer personne, je m'en fiche un peu des gens roux. Et aussi des blonds, des bruns, des auburn, des dames âgées aux cheveux violets. Un humain, c'est un humain, quelle que soit la couleur de ses poils de tête. Ça me rappelle une histoire arrivée récemment à une de nos amies. Sa fille aînée lui parlait depuis des mois de son nouveau petit copain. Et un jour, elle propose de lui présenter. Notre amie est trop contente et organise un petit thé à la maison. Le copain arrive, il est charmant et tout se passe très très bien. Mais quand il repart, notre ami dit à sa fille « Il est super ton copain, mais tu m'avais pas dit qu'il était noir ?» Et sa fille, très étonnée, lui répond « Ben non, pourquoi ?» C'était un détail que la maman avait remarqué et que sa fille avait oublié. Très bon signe pour l'évolution de nos sociétés. Ça bouge et plutôt dans le bon sens. Attention, tout n'est pas parfait, loin de là, et l'actualité récente nous montre que les ismes de tout poil, si j'ose dire, racisme, sexisme, antisémitisme et autres fléaux idiots comme le roussisme, ne sont pas encore en voie d'extinction totale. Il faut du temps pour les extirper de nos cerveaux, même lorsque nous sommes de bonne volonté, comme notre ami avec le copain de sa fille. Les personnes rousses, par exemple, ont longtemps été mal vues, et parfois même considérées comme maléfiques.
Cet homme étrange, dans un déshabillé orange, qui arrête les passants pour les vider de leur sang. Cet homme étrange, avec sa beauté qui dérange, qui vous conduit vers un ailleurs, un monde pas forcément meilleur.
Ah, cet homme étrange, probablement roux d'ailleurs, dans un déshabillé orange qui arrête les passants pour aller vider de leur sang. Mais non, tous les roux habillés en orange ne sont pas des vampires. C'est même chouette qu'ils soient là pour faire un peu de capillodiversité. Une chance aussi qu'il y ait une dermatodiversité. Dans la nature, la biodiversité est toujours une chance et une richesse, toujours. Plus il y a de variétés de plantes, d'insectes, d'animaux, de tout genre et de toutes apparences, plus le monde va bien. Et notre morale aussi. Des recherches scientifiques montrent qu'évoluer dans un environnement marqué par la diversité, même si nous ne nous en rendons pas compte consciemment, fait du bien à notre esprit. Mais il y a une autre diversité qui me tient à cœur, la psychodiversité. Le fait que nous n'ayons pas toutes et tous le même caractère, les mêmes idées, les mêmes préférences, etc. Ça nous agace parfois que les gens ne pensent pas comme nous, ne partagent pas nos convictions, ne se comportent pas comme il le faudrait à nos yeux, qu'ils n'aient pas les mêmes idées que nous, qu'ils ne fassent pas les mêmes erreurs que nous. Pourtant, c'est une bonne chose. Si nous avions tous le même avis, quel ennui et quel danger aussi. C'est d'ailleurs un des nombreux problèmes des réseaux sociaux. Nous prenons peu à peu l'habitude de ne fréquenter, par écran interposé, que des gens pensant comme nous. Et on devient du coup de plus en plus raide et intolérant envers tous les autres. Non, vraiment, c'est une chance, la psychodiversité. Et même les casse-pieds. Tout le monde est utile à une société humaine. Pensez au casting des marins de Christophe Colomb quand il part à l'aventure sur l'Atlantique sans savoir ce qu'il y a de l'autre côté. Il avait besoin à son bord d'un bon pourcentage de psychopathes, fonceurs et bagarreurs pour entraîner tout le monde, mais aussi de quelques anxieux pour vérifier qu'on embarquait assez de vivres et d'eau, de quelques histrioniques pour faire le spectacle le soir sur le pont pendant la traversée, de quelques obsessionnels aussi pour vérifier chaque jour les fuites d'eau dans la cale. Bref, s'il n'avait pas eu à son bord un ramassis de casse-pieds, il n'aurait n'aurait jamais atteint son but. D'ailleurs, le meilleur endroit où chercher la sagesse est là où nous attendons le moins à la trouver, dans l'esprit de nos détracteurs et de nos contradicteurs. Logique, nous connaissons déjà très bien nos propres idées et celles des gens qui pensent comme nous. Alors pour progresser, il faut faire l'effort de connaître celles de nos adversaires, ce qui ne nous oblige pas pour autant à penser comme eux. Moralité, même si ça nous demande des efforts, parfois, vive la psychodiversité, vive la biodiversité et pour revenir à notre sujet, vive les personnes rousses et la couleur orange. Et vous, chère Ali, je sais que vous adorez la couleur orange et les personnes rousses, mais est-ce que vous faites l'effort aussi d'écouter et d'aimer les casse-pieds ?
Oui, j'aime tout le monde, vous savez. Hein, les roues, les casse-pieds, enfin bon, bref. Merci beaucoup, Christophe André. On peut retrouver vos choses vues en vidéo sur la page Facebook de Grand Bien Vous Fasse, ainsi que sur le site et l'appli de France Inter. Dans un instant, on évoque le retour en grâce de la rousseur. Question témoignage au 01 45 24 7000. Andara interprété Saying Goodbye.
France Inter. Grand bien vous fasse.
11h10, on s'intéresse à la rousseur au-delà des clichés avec l'historien Michel Pastoureau, la blogueuse Alexia Barra et la journaliste de cinéma Guillemette Audicino.
Zora la rousse, Zora belle et farouche, ta vie.
Alors ça, c'est une spéciale dédicace pour Claire Destacan, notre réalisatrice. Et née comme moi dans les années 70, et certains se rappellent sans doute du générique de ce feuilleton germano-helvético-yougoslave qui a fait les belles heures de récré à deux. Michel Pastoureau, à partir de quelle époque la rousseur commence à être revalorisée, à devenir à la mode ?
C'est la fin du XVIIIe, le début du XIXe siècle avec le mouvement romantique. Chez les peintres et chez les poètes, être roux devient plutôt une valeur. La femme rousse qui était une sorcière ou une prostituée devient une belle femme, une femme attirante. Et pour les hommes, il y a, comme dit Nerval d'ailleurs, l'ineffable bonheur d'être différent. Donc ça concerne aussi les roux. C'est un peu timide et réservé à un milieu artistico-littéraire, mais quand même, ça laisse des traces, et notamment pour la femme rousse qui, jusqu'à aujourd'hui, reste une femme, une belle femme, une femme attirante, ce qui est encore une autre forme d'écart, bien sûr, mais plutôt positif. C'est un peu moins vrai pour les hommes.
Guillemette Odissino, le cinéma a contribué à mettre en valeur des beautés rousses, hein, de Rita Hayworth à Nicole Kidman, en passant par Julianne Moore, Emma Stone, ou encore Audrey Fleurot, et même Jessica Rabbit. Alors là, dans La Recherche, non, qui veut la peau de Roger Rabbit.
Je crois que je vais dénoncer à l'irréveillé à l'antenne. C'est lui qui voulait que je parle de Jessica Rabbit. Mais c'est vrai que vous rendez compte. Enfin, ce film incroyable qui mélange donc la réalité et des toons, la créature de rêve dessinée, elle est quoi? Elle est rousse. C'est-à-dire, pourtant, ils auraient pu faire une Marilyn améliorée. Enfin, une Marilyn améliorée. Je crois que l'expression marche pas. Une Marilyn. Ça s'améliore pas, une Marilyn. Et ils ont choisi une créature incroyablement bombesque avec cette chevelure rousse incendiaire. Alors, c'est sûr que là aussi, avec un feutre, c'est plus sympa de faire du rouge à l'écran que de faire un petit jaune paille, hein. Ça doit être aussi une question de palette de couleurs, mais ça reprend quand même une tradition des actrices qui ont enflammé la pellicule. Alors, ce qui est fou, c'est que c'est Rita Hayworth dans des films en noir et blanc. Donc, en fait, Gilda, où elle enlève ses gants et où elle met le feu partout, tout le monde sait qu'elle est rousse, alors que c'est en noir et blanc. Donc, le pouvoir, quand même, de la femme rousse va au-delà même de la couleur du film, excusez-moi. Hein. La femme rousse est en technicolore naturellement, vous voyez. Après, Deborah Kerr qui se roule sur la plage dans un film également noir et blanc, mais c'est pas grave, ça marche quand même. Donc, en fait,
avec qui se roule sur la plage?
Avec Burt Lancaster.
Ah, c'est ça, ouais.
Ah, bah, tant qu'il y aura des hommes. Ouais. Donc, sous-entendu, tant qu'il y aura des femmes rousses aussi, tout ira bien. Et donc, il y a effectivement une tradition qui a pris repris, vous l'avez dit, par des actrices absolument sublimes comme Julianne Moore, comme Julia Roberts, qui démocratise à fond la grande crinière rousse. Et maintenant, c'est quasiment la mode de se teindre en rousse. C'est-à-dire que les blondes hollywoodiennes se teignent en rousse.
Alexia Barra.
Et je vais même aller plus loin, c'est la mode de se faire des taches de rousseur en tatouage, de se faire tatouer des taches de rousseur sur le visage. Donc c'est quand même assez rigolo.
Ça a joué dans La Fierté Rousse, toutes ces actrices hollywoodiennes ou pas, rousses?
Ah oui, bien sûr. Je pense que d'avoir des figures féminines très glamour comme ça ont aidé à rendre cette couleur de cheveux tendance. Oui.
Alexia Lacour, je rappelle que vous collaborez avec nous et que vous êtes rousse.
Ouais. Non, mais oui, ça a beaucoup aidé. Et puis ça a remis quelque chose comme quoi c'était aussi normal et comme quoi ça pouvait être beau aussi.
Marie-Laure Zonshine, de femme
actuelle. Oui, et puis n'oublions pas aussi nos jeunes années. Guillemette, peut-être à votre enfant, lisiez-vous votre garçon quand il était petit, Boule et Bill, Astérix et Obélix.
Ah, Obélix, il est
voilà, Zig et Puce, Tintin. Alors là, Tintin, il y a un gros débat.
Oui,
hein,
gros débat.
Michel Pastoureau, quand même.
Il y a un gros débat sur Tintin.
Sur Tintin, oui, mais il est insaisissable, Tintin.
Et puis il y a Fifi Brin d'Acier. Oui.
Bah, bien sûr.
Non, mais il y en a plein. Hein. Et puis il y a la famille Weasley. Merci.
Dans Harry Potter.
Non, mais ça, c'est pour les garçons. Merci, J.K. Rowling, parce que grâce à Ron Weasley, finalement, les garçons roux sont devenus sympathiques et potentiellement sexy pour la plupart des adolescentes. Il faut la remercier, J.K. Rowling.
Ron Weasley, interprété par Rupert Grint. Alexia Barra, qu'est-ce que vous dites, qu'est-ce que vous répondez aux personnes qui viennent vous voir en vous disant que vous êtes leur fantasme? Comment sont accueillis ces malotrus?
Alors, personne n'est jamais venu quand même me voir directement pour me dire
mais
que j'étais un fantasme.
De façon détournée.
Oui, de façon détournée. C'est vrai que c'est souvent, dans un jeu de séduction, c'est souvent la porte d'entrée pour nous aborder. C'est-à-dire que c'est plus facile de nous aborder de cette manière-là en nous parlant de nos cheveux. Moi, ça me fait rigoler. Je trouve ça. Je préfère ça à ce qu'on soit considéré comme des sorcières horribles. C'est quand même plus flatteur. Maintenant, c'est vrai que c'est encore dans l'extrême. C'est toujours fantasmé, exagéré.
Qu'est-ce que vous pensez de ce Red Love Festival? La première édition a eu lieu l'été dernier, en août dernier. C'est le festival de la fierté rousse qui a lieu en Bretagne.
Oui, bah, alors.
On pourrait vous accuser de communautarisme, voilà, c'est ça, façon un peu schématique.
Oui, on
schématique.
Pourrait se dire, ça stigmatise encore plus, ça pourrait porter à sourire aussi. Moi, je pense que c'est juste un événement bienveillant. Justement, je pense que le problème, c'est qu'il n'y ait pas cet aspect communautaire assez présent, et c'est l'occasion, durant cette journée, de se rassembler.
C'est pas interdit aux bruns.
Non, ce n'est pas interdit aux bruns. Nous sommes tolérants et ouverts à tout type de personnes, mais c'est la possibilité de partager ces expériences communes.
Christophe André, ça fait du bien à l'estime de soi de se rassembler dans ce genre de festival.
Forcément, parce que toutes les situations de rejet, de colibé, de petite méchanceté, au fond, dont je découvre l'ampleur ce matin. J'avoue que j'avais pas perçu à ce point combien le fait d'être roux. Moi, j'ai toujours, d'abord, soit j'y fais pas attention, soit je trouve ça plutôt sympa. J'avais pas perçu, et j'ai eu des copains roux, j'ai jamais eu à l'idée qu'ils étaient spéciaux du fait de leur couleur de cheveux, mais là, je découvre à quel point il y a cette sensibilité. Et donc, comme toutes ces situations de rejet se vivent dans la solitude, quand même, dans la honte, dans l'incompréhension, évidemment, ça fait du bien de retrouver autour de soi des gens roux, sympas, et d'avoir l'impression qu'au fond, c'est normal, quoi. C'est un truc, finalement, il n'y a rien d'inquiétant ou de pathologique dans la rousseur. C'est une caractéristique comme d'autres.
Et comment retrouver l'estime de soi quand on a été discriminé à cause de sa rousseur? Qu'est-ce que vous conseiller, préconiser, notamment aux enfants, aux adolescents qui subissent parfois des harcèlements liés à leur rousseur?
De toute façon, dans les cas de harcèlement, la règle numéro un, c'est de jamais rester seul, de jamais garder ça pour soi, d'en parler automatiquement aux gens qu'on a autour de nous, qui nous aiment, qui nous soutiennent. Effectivement, de se tourner vers des images d'identification valorisante, et en ce sens, les acteurs, les mannequins, tout ce que vous faites pour montrer au fond la beauté des roues et la normalité surtout, c'est ça quand même l'enjeu. C'est très important, ne jamais rester seul quand on se sent évidemment harcelé et rejeté.
Michel Pastoureau, qu'est-ce que vous avez envie de dire à ceux qui sont discriminés encore aujourd'hui, en 2019, à cause de leur rousseur?
Je ne suis pas roux, alors je ne me rends pas compte, je n'ai jamais discriminé personne. Je suis gros, vieux et chauve, alors je suis discriminé.
Je
suis gaucher, j'en ai parfois souffert également quand j'étais enfant. Mais je peux apporter un témoignage. Quand j'étais adolescent, ma cousine a reçu sa correspondante irlandaise qui s'appelait Maureen O'Donoghue. Elle était rousse avec des taches de rousseur, et nous les garçons, on était tous amoureux d'elle.
Alexia Lacour, qu'est-ce que vous avez envie de dire, je sais pas, tiens, à un collégien qui aujourd'hui se fait discriminer parce qu'il est roux?
Déjà qu'en fait le fait d'être unique, c'est une force, et on le découvre après, en fait, quand on est plus vieux, on le découvre. Mais c'est vrai que quand on est collégien, on a plus envie d'être comme tout le monde. Mais en fait, non, il faut savoir que c'est une force plutôt qu'autre chose.
Guillemette Odissino.
Pour les jeunes hommes, je ne sais pas trop, vu que j'ai eu du mal déjà à enlever les complexes de mon fils. Mais pour les jeunes filles, je sais pas, mettez un grand poster d'une des plus belles toiles de Klimt dans votre chambre. Regardez-le régulièrement. Vous allez voir que franchement, vous êtes belle, mademoiselle.
Et votre fils a surmonté aujourd'hui ces complexes?
Je crois.
Bon, mais tant
mieux. Je crois. Je vais lui demander. Ça va peut-être nous donner l'occasion de nous rediscuter. Il va me dire pas du tout, c'est de ta faute. Je vais aller aux nouvelles.
Merci beaucoup. Merci à tous. L'exposition Roux, l'obsession de la rousseur. C'est au Musée national Jean-Jacques Henner jusqu'au 13 mai. Et vous y avez contribué, Michel Pastoureau. On peut également lire Rouge, histoire d'une couleur. C'est publié au Seuil. Alexia Barra, on peut aller sur votre blog Alerte Rousse. On a le droit d'y aller même si on n'est pas roux?
Oui, bien sûr, je vous autorise.
Dites-moi deux mots, qu'est-ce qu'on peut retrouver sur ce blog?
Alors, des conseils mode et beauté aussi, parce que nous sommes une cible ignorée par les marques de cosmétiques, certainement pas assez rentable, sans doute. Beaucoup d'humour aussi sur les préjugés qui nous concernent, et voilà.
Merci Guillemette Odissino et Alexia Lacour. Demain, comment rendre les adolescents plus concentrés, plus attentifs? Si vous êtes ado, n'hésitez pas à nous appeler, expliquez-nous pourquoi vous avez du mal à être attentif, et vous les parents ou grands-parents, racontez-nous vos stratégies pour améliorer leur attention et leur concentration. 01 45 24 7000, sans oublier la page Facebook de Grand Main Vous Fasse. À suivre, Nagui et sa bande originale.